RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/frenc.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs du monde entier. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le journal, suivi de la mise au point de la semaine et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter Mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Voilà le programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal et la mise au point de la semaine.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. Le président Joko Widodo ouvre le troisième Jeux para-asiatiques 2018. BMKG peut toujours détecter le tsunami Tô Sang Buoi. Les citoyens de Corée du Sud touchés par le séisme dans le centre de Sulawesi a été trouvé. L'Indonésie soutient l'autonomisation des femmes afghanes. L'Indonésie et la Nouvelle-Zélande discutent du concept Indo-Pacifique lors de la 8e consultation ministérielle conjointe. Les auditeurs, voici les journaux complets. Le président indonésien Joko Widodo a ouvert les Jeux para-asiatiques 2018 au stade Gelora Bung Karno à Jakarta, samedi 6 octobre. Cet événement sportif quadriennal pour les athlètes asiatiques handicapés est la troisième fois après avoir été organisé à Guangzhou, Chine en 2010 et à Incheon, Corée du Sud en 2014. La cérémonie d'ouverture a été commencée par une attraction colossale qui présente la diversité en Indonésie. La procession suivante est le défilé d'athlètes et des officiels de 43 pays participants. Au nom de tout le peuple indonésien, je suis fière d'accueillir la présence des mesdames et messieurs, les invités spéciaux de 43 pays. En 2018, par les Jeux para-asiatiques, nous voulons célébrer la fraternité, nous montrons la persévérance et la réussite, et nous voulons défendre l'humanité. En déclarant Bismillahirrahmanirrahim, je déclare officiellement que les Jeux para-asiatiques ont été ouverts. Bonne chance, le succès. L'ouverture des Jeux para-asiatiques 2018 a également été assistée par le vice-président Yusuf Kalla et Mufidah Yusuf Kalla, la 5e présidente indonésienne Megawati Soekarnoputri, la 6e vice-présidente Tri Sutrisno et Madame Tuti Tri Sutrisno, le 11e vice-président Budiono et Madame Sinta Nuria Wahid. La cérémonie d'ouverture a eu pour thème « Nous sommes un ». Le président du comité d'organisation des Jeux para-asiatiques 2018, Raja Sabta Oktohari, a déclaré que toutes les différences rendaient l'État indonésien grand. L'Agence de météorologie, de climatologie et de géophysique, ou BMKG, a déclaré que depuis 2008, elle n'utilisait plus détection des tsunamis en eau profonde Buoi pour le système d'alerte rapide aux tsunamis en Indonésie. La responsable du BMKG, Dwi Korita Karnawati, à Jakarta, a déclaré samedi qu'actuellement, le BMKG utilisait un système d'alerte précoce au tsunami basée sur une modélisation informatique avec des calculs mathématiques. Dwi Korita a expliqué le fonctionnement du système utilisé par BMKG pour connaître le tremblement de terre et le tsunami dans le centre de Sulawesi vendredi 28 septembre. Initialement, les capteurs installés dans la région ont d'abord envoyé des données à BMKG après le séisme à 18h02, heure centrale indonésienne. Ensuite, l'ordinateur de BMKG traite les données pour déterminer s'il existe ou non un risque de tsunami. Les résultats du traitement de données doivent d'abord être vérifiés par des experts avant d'être annoncés au public. Pour le séisme dans le centre de Sulawesi, BMKG a annoncé la possibilité d'un tsunami vers 18h07, heure centrale d'Indonésie. L'annonce était conforme aux procédures du BMKG qui indiquaient que l'alerte rapide au tsunami avait été donnée au plus tard 5 minutes après le tremblement de terre. À 18h07, nous pouvions annoncer une alerte rapide basée sur des calculs informatiques étant vérifiés par l'expert. Nous n'avons pas utilisé des bouées depuis le début, c'est un malentendu. Il n'y avait pas de bouées, il ne peut donner d'alerte rapide, donc ce n'est pas basé sur bouée. Après avoir averti à 18h07, nous avons continué à surveiller les données du capteur sur le terrain. Surtout parce qu'il se trouve près de Donggala, Palu, les données sont réparties dans toute l'Indonésie, nous les vérifions une par une. Dwi Korita a déclaré que le système d'alerte précoce au tsunami utilisé par BMKG impliquait un tiers ou un consortium. BMKG a spécialement désigné le consortium pour gérer les données qui peuvent être accessibles pour confirmer si l'eau de mer a augmenté ou diminué. Pour la région centrale de Sulawesi, l'un des capteurs ou Tidal Gate a été installé au port de Pontoloan, Palu. Et Tidal Gate ou la port anti-marée a envoyé les données à propos de 3 mètres d'élévation du niveau de la mer après le séisme. Le ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie a annoncé l'existence de 120 ressortissants étrangers touchés par le séisme et le tsunami à Palu, Donggala, Sigi et Parigi, Mutong, dans le Sulawesi central. 119 personnes ont été déclarées en sécurité et la plupart se trouvaient déjà en dehors de la zone touchée. Pendant ce temps, une autre personne qui a été déclarée disparue a été déclarée morte. Le porte-parole du ministère indonésien des Affaires étrangères, Armanata Nasir, a dit aux journalistes à Jakarta le vendredi 5 octobre 2018 que le ressortissant étranger qui a été déclaré mort était un athlète de parapente sud-coréen nommé Dong Jin Lee. Armanata a déclaré que le ressortissant sud-coréen décédé avait été trouvé par une équipe de l'Agence nationale de recherche et de sauvetage, ou Basarnas, dans les ruines de l'hôtel Roa Roa à Palu. Il a été identifié après que sa famille a identifié ses caractéristiques physiques, à savoir la tête chauve de la victime. Il y a des cicatrices chirurgicales sur l'abdomen et le vêtement porté. Il est prévu que la famille à Palu incinère le cœur sud-coréen avant de le renvoyer chez lui. La ministre de l'autonomisation des femmes et de la protection des enfants, Yohana Yambise, a exprimé sa préoccupation sur le conflit en Afghanistan. Selon elle, les femmes et les enfants sont les plus défavorisés en cas de conflit dans un pays. À l'occasion de la commémoration de la 99e Journée nationale afghane à Jakarta jeudi, elle a exprimé l'engagement du gouvernement indonésien à encourager l'autonomisation des femmes en Afghanistan. Elle a également exprimé la volonté de l'Indonésie de coopérer avec l'Afghanistan dans l'autonomisation des femmes. En tant que ministre de l'autonomisation des femmes et de la protection des enfants, je sais exactement lorsque des conflits se produisent, les femmes et les enfants deviennent les parties les plus défavorisées. L'Indonésie appuie les efforts visant à autonomiser les femmes en Afghanistan. Nous nous engageons également à fournir divers programmes de coopération dans ce domaine. L'Indonésie continue également de proposer divers programmes visant à renforcer l'esprit d'entreprise et les compétences nécessaires à la croissance économique. L'ambassadeur afghan en Indonésie, Roya Rahmani, a apprécié le soutien de l'Indonésie à l'Afghanistan. L'Indonésie a montré son engagement à soutenir l'Afghanistan bien qu'il y ait de nombreux reportages dans les médias internationaux qui écrivent des choses négatives sur l'Afghanistan. La ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Retno Marsudi, a tenu une réunion bilatérale dans le cadre de la 8e consultation ministérielle conjointe avec le vice-premier ministre qui est également ministre des Affaires étrangères de la Nouvelle-Zélande, Winston Peters, à Jakarta, le vendredi 5 octobre 2018. En plus de se mettre d'accord sur un partenariat global entre les deux pays, lors de cette réunion, les deux ministres des Affaires étrangères ont également discuté du concept Indo-Pacifique qui a déjà été présenté par l'Indonésie. Dans une conférence de presse conjointe, le ministre Winston Peters a déclaré que son parti souhaitait une collaboration qui produise une substance sur ce concept, pas seulement sur le cadre d'idées ou de dépenses. Aujourd'hui, j'ai également parlé de partenariats approfondis avec diverses autres questions, telles que des questions de sécurité, des accords en cours, des relations humaines ou interpersonnelles et relations commerciales. Nous avons également parlé de l'Indo-Pacifique et de ce que cela signifie pour nous, l'Indonésie et les habitants du Pacifique. Et nous travaillons ensemble pour une substance, pas seulement sous forme d'idées. Le ministre Winston Peters a déclaré que la Nouvelle-Zélande avait également exprimé le souhait de maintenir le dialogue et la coopération qui a été établie avec l'ASEAN. La Nouvelle-Zélande veut également étudier comment l'ASEAN voit le concept Indo-Pacifique comme un concept visant à optimiser la coopération existante. Concernant le concept Indo-Pacifique, l'Indonésie a déclaré que ce concept ferait l'ASEAN jouer le rôle central ou aurait la centralité en tant qu'institution multilatérale. Les auditeurs de la Voix de l'Indonésie, c'est tout le programme d'aujourd'hui.
La mise au point de la semaine vous présente les questions d'actualité dans la semaine.
Bonsoir les auditeurs, on se retrouve dans la mise au point de la semaine dont le titre d'aujourd'hui est « On accélère la distribution de l'aide ». Les auditeurs, après le tremblement de terre et le tsunami qui ont frappé Palu, Donggala, Sigi et Parigi Mutong, Sulawesi Central, vendredi 28 septembre, la distribution logistique pour les résidents n'était toujours pas optimale. De nombreux habitants, surtout dans les zones isolées, n'ont pas reçu d'assistance. Pour cela, le chef de l'État a chargé ses collaborateurs d'accélérer la distribution de l'aide logistique. L'instruction a été transmise par le président lors d'une réunion restreinte qui s'est tenue à la ville de Palu après sa visite mercredi dans la zone touchée par le séisme de la ville de Palu et du district de Donggala. Le président a reconnu que la distribution de l'aide aux victimes du tremblement de terre et du tsunami n'était pas également répartie. Selon le président, l'assistance logistique n'est arrivée que dans des zones accessibles par voie terrestre. Le président a souligné que toute l'aide était disponible, mais qu'elle avait encore des problèmes dans la distribution, notamment à cause de son accès. Par conséquent, l'accélération de la distribution par voie aérienne ou maritime est nécessaire. Le président a également demandé au TNI et à la police de superviser la répartition de la logistique. Le nombre de réfugiés enregistrés mercredi 3 octobre était de 70 821 personnes. Il y a 138 points d'évacuation dans les villes de Palu, Sigi et Donggala. L'équipe du groupe de travail sur les catastrophes non seulement a distribué de l'aide, mais il a également encouragé les résidents à reprendre leurs activités. Les commerçants sur les marchés et les kiosques sont encouragés à recommencer à vendre. Le président a déclaré que le gouvernement garantissait leur sécurité en mobilisant l'armée nationale d'Indonésie et la police nationale d'Indonésie. En ce qui concerne l'assistance internationale, le gouvernement a décidé de l'utiliser pour la construction de logements. C'est ce qu'a déclaré par le vice-président Youssouf Kalla mardi 2 octobre. Youssouf Kalla a été nommé par le président Jokowi au poste de commandant du traitement des victimes de catastrophes. Il a déclaré que l'assistance étrangère était destinée à la réhabilitation et à la reconstruction, comme à Aceh. Il a également déclaré que le gouvernement indonésien avait refusé l'assistance sous la forme d'envoi de troupes étrangères telle que la proposition du président américain Donald Trump. Youssouf Kalla a estimé que toutes les catastrophes avaient un impact grave, y compris le niveau de gravité de la catastrophe de Palu, qui est différent que celui de Lombok. Cependant, il a souligné que la situation de catastrophe dans les deux régions n'exigeait pas le statut de catastrophe nationale. L'Agence nationale de gestion des catastrophes a déclaré qu'il existait déjà 29 pays et 4 organisations étrangères offrant une assistance sous la forme d'avions de transport logistique. Les auditeurs, voilà la mise au point de la semaine.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir les auditeurs de RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 7 octobre. On commence par le 7 octobre 1950. La mère Teresa a créé l'Ordre de missionnaires de la charité. La charité missionnaire est un ordre de la religion catholique créé le 7 octobre 1950. En 2012, cet ordre comptait environ 4500 nonnes et les membres nonnes de cet ordre obéissant à la promesse de pureté, de pauvreté, d'obéissance, de tout leur cœur et de services gratuits pour les plus démunis. Cet ordre a été fondé par Mère Teresa de Calcutta. Elle est une nonne catholique d'origine albanaise et indienne. Pendant plus de 47 ans, elle a servi les pauvres, les malades, les orphelins et les mourants. Elle a dirigé également la première expansion des missionnaires de la charité en Inde et en d'autres pays. Le 7 octobre 1952, la naissance de Vladimir Poutine. Vladimir Vladimirovich Poutine est un homme politique russe et est l'actuel président de la Russie. Poutine est président de la Russie depuis le 7 mai 2012. Avant, il a été premier ministre de 1999 à 2000, puis président de 2000 à 2008, avant de redevenir premier ministre de 2008 à 2012. Au cours de son second mandat de premier ministre, il est devenu président du Parti Russie Unie, un parti gouvernemental. Au cours du premier mandat présidentiel de lui, l'économie russe a connu une croissance de 8 ans et le PIB mesuré en capacité d'achat a augmenté de 72%. En 2007, il a été désigné comme le personnage de cette année par le magazine Time. Et en 2015, il a été classé numéro 1 sur la liste de personnalités les plus influentes selon le magazine Time. En 2013, 2014 et 2015, il était classé numéro 1 sur la liste des personnalités les plus influentes au monde selon Forbes. Le 7 octobre 2001, la guerre en Afghanistan a commencé. La guerre en Afghanistan a débuté le 7 octobre 2001. Après les attaques du World Trade Center du 11 septembre, les États-Unis ont lancé leur campagne de lutte contre le terrorisme en Afghanistan, dont le but est de renverser les talibans, accusés de protéger Al-Qaïda. C'est aussi pour d'arrêter Osama bin Laden. L'Alliance du Nord de l'Afghanistan fournit une majorité de troupes avec le soutien des États-Unis et des pays de l'OTAN, entre autres la Grande-Bretagne, la France, les Pays-Bas et l'Australie. Le nom de code donné par les États-Unis pour ce conflit est l'Opération de liberté éternelle.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir tout le monde, voici le programme de mon Indonésie. Aujourd'hui, on va parler de le succès des Jeux para-asiatiques est un cadeau pour les victimes de catastrophes. Le comité d'organisation des Jeux para-asiatiques de 2018, ou INEPGOC, a déclaré que le succès des Jeux para-asiatiques de 2018 serait un cadeau pour divertir les victimes des catastrophes dans plusieurs régions d'Indonésie. C'est ce qu'a déclaré par le président de l'INEPGOC, Raja Sabta Oktohari, au bureau du ministère de la Coordination du Développement Humain et de la Culture, ou Kemenko PMK, à Jakarta Central, jeudi 4 octobre. Il a révélé lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux para-asiatiques qu'il y avait un élan particulier sous forme de prière qui visait à apporter un soutien aux citoyens victimes des catastrophes des villes de Palu et Donggala, Sulawesi Central. Conformément aux instructions du président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, ou Jokowi, il a déclaré que la mise en œuvre des Jeux para-asiatiques de 2018 devrait être un divertissement pour les victimes du séisme et du tsunami. Les Jeux para-asiatiques se déroulent du 6 au 13 octobre 2018 et sont participés par 2 800 athlètes, 1 800 officiels et 500 médias de 41 pays participant aux Jeux olympiques nationaux. Il y a 18 sports en compétition, ce sont le basketball, le volleyball, l'escrime, le tennis de table, la natation, le tir, le judo, le cyclisme, les échecs, l'haltérophilie, le bowling, le ballon but, le badminton, la course, le tir à l'arc, le boccia, le handball et le tennis. La cérémonie d'ouverture des Jeux para-asiatiques a eu lieu le 6 octobre 2018 au stade principal Gelora Bung Karno de Senayan, alors que l'événement de la clôture aura lieu le 13 octobre 2018 au stade Madya Senayan, Jakarta. Armin Shah, chef de mission des Jeux para-asiatiques en 2018, a demandé à toute la communauté de continuer à soutenir tous les athlètes qui participeront aux Jeux para-asiatiques de 2018. Selon lui, le soutien de toutes les communautés peut avoir une influence majeure sur la performance des athlètes en compétition. Il souhaite également qu'on développe toujours la publication des Jeux para-asiatiques de 2018, en particulier par le biais de médias, soit au niveau national et international. En ce qui concerne l'objectif de 16 médailles d'or et 8 postes principaux visés par le président Jokowi, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Imam Nahrawi, a déclaré que tous les préparatifs avaient été faits. Armin Shah a fait des préparatifs détaillés, y compris le déplacement d'athlètes de Solo à Jakarta. C'est tout mon Indonésie, merci beaucoup, au revoir.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien, dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir à tous, on se retrouve avec moi Tiwi dans la rubrique du magazine Culturel. Comme d'habitude, vous pouvez écouter notre émission par la diffusion en direct à www.voinews.id. Aujourd'hui, je vous invite à visiter le musée de Brawijaya. Restez donc avec nous à RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie. Les auditeurs, le 5 octobre est l'anniversaire de l'armée nationale indonésienne, ou TNI, qui comprend l'armée indonésienne, de la marine et de l'air. Cette année, la TNI a célébré son 73e anniversaire. La commémoration du 73e anniversaire de la TNI aura lieu à chaque extrémité de l'Indonésie, c'est-à-dire dans toutes les villes, de Sabang à Merauke. TNI va organiser des cérémonies dans chaque commande principale. Le clou de l'événement s'étenue à Merauke, en Papouasie. Une série d'activités a déjà organisé dans diverses régions, comme des services sociaux, l'exposition des systèmes principaux des outils de défense, des pèlerinages de héros et Panglima TNI Awards. Dans le cadre du 73e anniversaire de TNI, nous vous invitons à visiter le musée Brawijaya, Java de l'Est, pour regarder des objets historiques utilisés par le TNI pour lutter contre les envahisseurs. Les auditeurs, le musée de Brawijaya a été construit en 1976 et inauguré le 4 mai en 1968. Dans le musée de 10 500 m², il existe de nombreux vestiges de l'indépendance indonésienne, en particulier lors de l'agression militaire néerlandaise. Mais la collection n'a pas été uniquement utilisée pour les combattants à Malang, il y a également celle des régions environnantes telles que Surabaya et Bondowoso. Ce musée est ouvert tous les jours de 8h à 14h30, tandis que le vendredi, il est fermé à 11h30 et le samedi et dimanche à 13h. Les auditeurs, à la cour du musée, vous arriverez au parc d'armes ou Agne Yastraloka. À l'intérieur du parc d'armes, une collection d'objets historiques, entre autres des chars AMP Trek, utilisés par 35 combattants de l'armée des étudiants de la République d'Indonésie pour se battre le 31 juillet 1947, des armes à feu gâchées par des envahisseurs, des canons et la statue du général Sudirman. Dans les halles du musée, vous pouvez voir trois collections historiques, à savoir le soulagement des assignations des forces de Brawijaya, le soulagement du pouvoir de Majapahit et le symbole de l'unité de l'État. Dans la principale salle de collection se trouvent diverses collections intéressantes. Parmi eux se trouve la voiture de Soto USA, qui a été utilisée comme voiture officielle du colonel Sungkono alors qu'il était commandant de la division Brawijaya, diverses armes, samouraïs, des chaises et tables utilisées pour les négociations de cessez-le-feu entre l'armée de sécurité populaire et les alliés le 29 octobre 1945. En outre, il existe des peintures illustrant le meurtre de Malabi et la bataille du 10 novembre 1945, la carte de l'occupation néerlandaise pendant l'agression militaire de 1948, les uniformes de l'armée indonésienne, la monnaie ayant circulé pendant la révolution, des appareils de communication comme la radio et de communication lutte, pigeons postaux, ainsi que des notes d'événements de cette période a été enregistré par les journaux locaux tels que Birawa. Les auditeurs, parmi les collections historiques du musée de Brawijaya, c'est le wagon de la mort, une collection historique la plus intéressante. L'histoire du wagon de la mort s'est produite en 1947, quand il y avait l'agression militaire néerlandaise. De nombreux guerriers rois et soldats ont défendu l'indépendance. L'une de ces résistances s'est produite à Bondowoso. À cette époque, des combattants ont été arrêtés et emprisonnés. Le nombre de prisonniers ne pouvant plus être logés dans la prison de Bondowoso, 100 prisonniers considérés comme les plus dangereux ont été transférés à la prison de Surabaya Bubutan le 23 novembre 1947. Trois wagons de train GR5769, GR4416 et GR10152 transportaient des prisonniers. En raison de l'absence de boissons, d'alimentaire et de la respiration, la plupart des prisonniers étaient faibles après des dizaines d'heures de voyage à la prison de Bubutan. Ils étaient entassés, ensemble et grillés à la chaleur des wagons. 46 prisonniers ont été tués. La plus grande victime était du wagon GR10152 qui ne disposait d'aucune ventilation. Les auditeurs, c'est tout l'édition de l'Indonésie en couleur d'aujourd'hui. On se retrouvera avec d'autres sujets intéressants. Au revoir.
Warna-warni. L'Indonésie en couleur présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Les auditeurs de RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie, on se rencontre dans la rubrique de l'Indonésie en couleur avec moi, Tiwi. Cette édition va parler d'un sujet dont le titre est « La farine d'eau de poisson patine afin de surmonter le problème de retard de croissance ». Restez avec nous à RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie. Parlons de cure de 3325 kHz ou par www.voinews.id. Les auditeurs, de nombreux professeurs de l'université Pahlawan Tuanku Tambusai de la province de Riau ont réussi à formuler de la farine d'eau de poisson patine ou poisson chat afin de surmonter le problème de retard de croissance qui persiste encore en Indonésie. Le retard de croissance est un problème chronique causé par la malnutrition pendant une longue période. Le retard de croissance commence lorsque le foetus est encore dans l'utérus et n'apparaît que lorsque l'enfant a 2 ans, généralement sous la forme d'un cœur court comparé à son âge. Outre le retard de croissance, il est également associé à un développement cérébral non optimal. Les données du ministère de l'Indonésie de la Santé pour l'année 2018 deux cas de retard de croissance en Indonésie sont encore de 37,2%. Dans un communiqué de presse, Nur Aprianis, la chef de la recherche et le professeur de l'université Pahlawan Tuanku Tambunsai, a déclaré « Les eaux de poisson-chat ou le poisson-patine ont une teneur élevée en protéines, en calcium et en phosphore indispensables à la croissance des toutes petites. » Elle a exprimé les recherches sur la farine d'eau de poisson-chat auxquelles ont également participé d'autres professeurs de la même université, à savoir Verawati Besti et Nurman. Le processus de recherche pour fabriquer de la farine d'eau de poisson-chat ou patine a débuté en 2017 et a abouti au résultat en 2018. Nur a dit que les résultats de l'étude ont également été brevetés par le ministère de la Loi et des Droits de l'Homme ou Kemenkumham de la République d'Indonésie. Nur Aprianis, la professeure au programme d'études S1 du département de nutrition de l'Université Pahlawan, a déclaré que l'objectif de cette étude était de rechercher la meilleure formule de calcium entre la farine de poisson-chat ou Pangasius hypophthalmus pour le retard de croissance du bébé en faisant varier la farine d'eau du poisson-chat en les nouillant de riz de meilleure qualité et riche en protéines. Le poisson patine ou le poisson-chat est un poisson d'eau douce très répandu dans la province de Riau, en particulier dans la région de Kampar. Nur Aprianis a ajouté que la farine d'eau de poisson chat pourrait être utilisée comme matière première alimentaire pour le retard de croissance des tout petits. La raison pour laquelle on choisit des eaux de poisson chat est parce que Kampar est le plus grand producteur de poisson chat à Riau et il essayait donc d'utiliser les déchets d'eau de poisson. Selon Nur Aprianis, des informations sur la formulation de farine d'eau de poisson-chat ont été publiées dans le journal en ligne Les médias de santé publique indonésien. Cette publication devrait permettre aux gens d'obtenir des informations sur la farine d'eau de poisson-chat afin de réduire les risques et d'être une solution au problème de retard de croissance. Les auditeurs, c'est toute l'édition de l'Indonésie en couleur d'aujourd'hui. On se retrouvera avec d'autres sujets intéressants. Au revoir.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir chers amis, merci d'écouter La Voix de l'Indonésie. Voici la rubrique Courrier et Musique. L'équipe de l'émission française de La Voix de l'Indonésie vous remercie d'avoir envoyé les courriers, les cartes postales, les rapports d'écoute et les messages. Nous allons saluer nos auditeurs et aussi présenter des chansons indonésiennes. Dans cette édition, La Voix de l'Indonésie va présenter les chansons du groupe Naïf. Chers amis, on commence cette rencontre en écoutant une chanson intitulée « Benci untuk mencinta » ou en français « Détester pour aimer ». Bonne écoute et restez avec nous à www.voinews.id.
Aku saat ini
Voilà la chanson de Naïf dont le titre est « Benci untuk mencinta » ou en français « Détester pour aimer ». Les membres du groupe formé depuis 1995 sont David, chanteur, Emile, bassiste, claviériste et chanteur, Jarwo comme guitariste et chanteur, Pepin comme batteur, percussion, chanteur et Chandra comme claviériste, pianiste et synthétiseur. Mais Chandra a toutefois démissionné en 2003. Chers amis, merci à tous ceux qui nous ont écrit et envoyé les courriers, les rapports d'écoute et emails. Maintenant, je vais saluer à l'auditeur Bouzebouja Mohamed de BP9926 El Makari 31007 Organ Algérie. Il a écrit « Bonjour, très content d'avoir l'adresse du site de la Voix de l'Indonésie. Je resterai fidèle à l'écoute. Je remercie toute l'équipe de la radio. » Merci Bouzebouja Mohamed d'écouter la Voix de l'Indonésie. Et comment va notre cher ami français Maurice Mercier de 537 rue François Giraud, 69400 Villefranche, et Jean-Marie Monplot de 409 Faubourg Montmélian, 73000 Chambéry, France, et Christiane Gibaudot de la rue Guston Charbonnier, 06300 Nice, La France. Comment ça va mes amis? J'espère que vous êtes tous en bonne santé et restez toujours en contact avec nous. Merci de continuer à suivre nos programmes et le courrier en particulier. Chers amis, la suite, la chanson de Naïf que nous allons écouter, intitulée « Tujuh Bidadari » ou en français, cet ange. Bonne écoute.
terjadi bagaikan mimpi. Lihat aku terpikat pada seorang dewi. Bagaimana caranya dapatkan dia? Ku manusia biasa, sesuatu darinya, selendang sutra miliknya, itulah hatinya. Kulihat aku terpikat, ku yakin kau ku dapat. Inilah kisah cinta
Cette chanson a été inspirée par un folklore célèbre dont le titre est Jakartarup et cet ange. C'est ce folklore qui est devenu l'image de la couverture de l'album de cet ange. Maintenant, je vais dire bonjour à Bernard Grondin à Saint-Rouel-du-Pont de 97427 étincelées les hautes îles de la Réunion, océan Indien. Comment allez-vous? Et pour Omar Lassas, à BP530 Bureau de Poste Émir AEK 29008 Mascara, Algérie, et allô Jean-Marie Monplot de 409 Faubourg Montmélian 73000 Chambéry, France, et Abdelkader Khalil de BP669 Al Wahad Ouargla 30000 LP Algérie. Et bonjour Sergi Giovanni de Via Sibari 40981 49 Messina Camaro Inférieur, Italie. Et comment ça va Merlin Moura? BP154 Bicetif 19000 Algérie. Et salut Jean Barba de 168 Avenue du Stade C3110 Beaumont, France. Et bonjour Gauthier Gillet de Radio Club du Perche 12 rue François Moriot 28110 Luc, France. Bonjour à tous, comment allez-vous? Je vous remercie d'être fidèle à la voix de l'Indonésie. Chers amis, je vous présente ensuite une chanson intitulée Berubah ou en français Changer. Bonne écoute.
Resah ingin berkata aku peduli yang kau lihat selalu salah, selalu salah, tiada berubah dan kau minta. Oh, sabarlah sayang,
Chers amis, la chanson que vous venez d'écouter est l'une des chansons de l'album « Sept anges ». La chanson créée par David Bayou raconte du désir de quelqu'un de changer pour le meilleur. « Changer » était son expérience personnelle et a été écrite en 2003 au début de son mariage. Et voilà, chers amis, c'est la fin de ce courrier. Merci de continuer à suivre nos programmes. Toute l'équipe francophone de La Voix de l'Indonésie vous dit un grand merci à tous. Nous attendons de bonnes nouvelles de vous. Chers amis, avant de mettre fin à l'édition d'aujourd'hui, je vous donne la chanson de Naïf intitulée « Air dan api » qui signifie « L'eau et le feu ». Bonne écoute et à la semaine prochaine!
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Écoutez tous les jours nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4 et 5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @VOIINDONESIA ou bien Instagram Voice-of-Indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.